إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ثم أما بعد donc on se retrouve pour une troisième assise. Donc dans la série sur la biographie des grands lecteurs du Coran. Et cette troisième assise, elle correspond finalement aussi à la troisième assise autour du premier de ces grands lecteurs, qui n'est autre que le compagnon, l'illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. On s'est arrêté la semaine dernière sur l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et donc l'accueil des Médinois, des Ansar, à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit que parmi les premiers qui étaient venus accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faisait donc un système de roulement, donc chacun venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui souhaiter la bienvenue et l'accueillir donc au sein de cette nouvelle de la nouvelle ville dans laquelle donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, qui s'appelait Yathrib, et par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé donc Al-Madinah. Parmi ceux qui sont venus voir le prophète, il y avait Umarat ibn Hazm. Et Umarat ibn Hazm, pour rappel, c'est le beau-père de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Donc le deuxième mari de sa mère. Et Umarat ibn Hazm, lorsqu'il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris avec lui Zayd ibn Thabit. Et Zayd ibn Thabit, il raconte donc cet événement dans sa vie qui l'a marqué. Il dit Utiya bin Nabiya sallallahu alayhi wa sallam maqdamahu al-Madinah. On m'a amené voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine. Faqalu ya Rasulallah, hadha ghulamun min bani Najjar. Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cet enfant, donc Zayd ibn Thabit, est un enfant donc fait partie des Banu Najjar. Et on avait expliqué la fois dernière que les Banu Najjar, c'était aussi finalement une partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était les oncles maternels du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc هذا غلام من بني النجار وقد حفظ أو قد قرأ 17 سورة مما أنزل إليك أو مما أنزل عليك. Et cet enfant donc il a mémorisé 17 sourates parmi ce qui t'a été révélé. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Zayd ibn Thabit de réciter, et dans certaines versions comme celle rapportée par Ibn Hajar dans l'Isaba, il est dit que la sourate que Zayd ibn Thabit a récité, c'était la sourate Qaf. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a apprécié la lecture de Zayd, et donc il a validé sa lecture. Donc finalement ici, imaginez-vous donc Zayd ibn Thabit à l'âge de 11 ans qui reçoit donc la validation et cachet du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa lecture du Coran. C'est quelque chose d'extraordinaire qui va le marquer, et on verra que Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il aura un lien avec le Coran très fort. Et on était donc arrivé à en tirer les enseignements de ce récit. On avait cité donc parmi les premières choses à tirer de ce récit, parce que le prophète sallam avait demandé également à Zayd ibn Thabit de se lancer dans l'apprentissage de certaines langues. Donc on avait cité l'hébreu et le syriaque. Et on avait expliqué donc la première leçon à tirer, c'était quoi? C'était que l'éducateur de manière générale, et donc ici c'est le prophète sallam, il doit tenter d'orienter donc ceux qui sont à sa charge vers les missions ou vers les métiers qui sont utiles à la communauté. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en Zayd ibn Thabit une faculté de mémorisation, une finesse d'esprit, quelqu'un de très habile et de très dégourdi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a orienté vers un endroit, vers une science qui sera utile pour la communauté musulmane. Donc ça c'est le premier enseignement tiré. Donc éducateur, qu'on soit parent ou enseignant, nous devons veiller donc absolument à orienter ceux qui sont à notre charge donc vers ce qui sera utile pour la communauté musulmane. Le deuxième enseignement tiré, et c'était là qu'on s'est arrêté la semaine dernière, c'est l'importance de la jeunesse l'importance de la jeunesse. Donc cette période durant laquelle donc notre cerveau est énergique, il est capable de mémoriser, d'emmagasiner une quantité incroyable de connaissances. Cette période-là de notre vie, qui se situe entre deux périodes de faiblesse, hein, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est bébé, et lorsqu'on devient plus âgé, hein, lorsqu'on devient vieux, donc l'âge de la vieillesse, cette période-là de la jeunesse est une période propice pour l'apprentissage. Et là, Zayd ibn Thabit, il a profité de ce moment-là, de sa jeunesse, pour apprendre et mémoriser un maximum de choses. Et dans les sagesses anciennes, dans les sagesses arabes, on disait « At-ta'allumu ou al-ilmu fi sirari kan-naqshi ala al-hajar » L'enseignement, hein, l'apprentissage, la science, durant la période de jeunesse, c'est semblable à graver sur de la roche. C'est comme si tu gravais sur une roche. Parce que ce que tu apprends en étant petit, tu ne l'oublies jamais. Même en devenant des années plus âgées et en atteignant donc l'âge de la vieillesse. Ça, c'est le deuxième enseignement tiré de ce récit. Le troisième enseignement tiré, c'est le comportement de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera finalement son professeur, qui sera son maître. Zayd ibn Thabit, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, il faut absolument le mémoriser et retenir cette leçon-là, il mémorise 17 sourates avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En faisant ça, il montre la motivation qu'il a au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver et qu'il va voir un jeune de 11 ans qui a déjà mémorisé 17 sourates, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura lui-même une motivation aussi pour lui donner, pour lui accorder encore plus, une plus grande attention et lui fournir un maximum de savoir. Et l'étudiant, de manière générale, il doit être comme ça vis-à-vis de son professeur. Il doit être quelqu'un qui est né de motivé et qui montre sa motivation au professeur. Et plus l'enseignant verra en l'étudiant une motivation et une sincérité dans ce qu'il fait, plus l'enseignant aura envie de donner de son temps, de donner de son énergie, de donner de son savoir à cet étudiant. Et à l'inverse, un étudiant qui manque de motivation, qui traîne les pieds pour venir en classe, eh bien c'est un étudiant qui reflétera un sentiment négatif à l'égard de son professeur. Et le prof n'aura pas envie de perdre son temps avec un étudiant de cette sorte-là. Et subhanallah, lorsque j'ai lu ce passage-là de la vie de Zayd ibn Thabit, subhanallah, ça m'a fait penser à l'histoire de l'imam Shafi'i avec l'imam Malik. Rahmatullah alayhim. L'imam Shafi'i, donc c'était un élève de l'imam Malik. C'est un élève de l'imam Malik. L'imam Malik, il est décédé en 179 de l'Hégire. L'imam Shafi'i, il est né en 150 de l'Hégire. Et il est mort en 204. L'imam Shafi'i, il est né à Gaza. Et plus particulièrement à Ascalon. Ou Ashkelon. Parce que aujourd'hui, malheureusement, le nom des villes arabes a changé et a pris donc une autre tournure. Donc c'est une ville côtière et elle est au nord de Gaza. L'imam Shafi'i, il est né là-bas. Et il a grandi orphelin. Son père, il est mort alors qu'il avait même pas 2 ans. Et sa mère, subhanallah, elle a eu peur pour son enfant. Elle l'a pris donc et elle l'a emmené à la Mecque. Parce qu'à la Mecque, il y avait sa famille de l'imam Shafi'i. Ce qu'il faut se rappeler, il faut comprendre ici que l'imam Shafi'i, en réalité, lorsqu'on analyse sa généalogie, il rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa généalogie à qui ? À Abdou Manaf. C'est pour ça que lorsqu'on cite l'imam Shafi'i, on dit Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi. Pourquoi on rajoute al-Muttalibi ? Parce que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il est issu de al-Muttalib. Al-Muttalib, c'était qui ? C'était un des 4 fils de Abdou Manaf. Abdou Manaf, il avait 4 enfants. Donc l'un, c'était Hashim. Et donc la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de là. Et al-Muttalib vient de al-Muttalib, donc la descendance de. Donc vient de là, de cette descendance-là, vient l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi. Donc sa mère l'a emmené à la Mecque, à l'âge de 2 ans. Donc imaginez-vous, de Gaza jusqu'à la Mecque. Sa mère qui le prend. Elle le ramène à la Mecque, et là il commence à apprendre la langue arabe. Il s'intéresse donc à la poésie, et il excelle dans la langue arabe. Sa mère l'emmène à la campagne, et particulièrement là, la tribu des Houzayl, où il va perfectionner la langue arabe. Et à ce moment-là, lorsqu'il est à la Mecque, l'imam Shafi'i entendra parler de l'imam Malik. Il entendra parler de l'imam Malik qui se trouve à Médine. Mais il sait que l'imam Malik, il a énormément d'étudiants. Donc un étudiant de plus, pour lui, il va pas lui prêter grande attention. Parce qu'il a déjà 200, 300, 400 étudiants qui étudient auprès de lui. Donc l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être malin. Il va dire, avant d'aller voir l'imam Malik, il s'est procuré un exemplaire de son livre Al-Muwatta. Et l'imam Shafi'i l'a mémorisé. Et on dit que l'imam Shafi'i, lorsqu'il lisait, ce qu'il lisait, donc la page qu'il lisait, il l'a mémorisé directement. Il avait une mémorisation incroyable. À tel point qu'on cite qu'il a mémorisé le Muwatta en une dizaine de nuits. Donc le Muwatta, c'est un recueil de hadith de l'imam Malik. D'ailleurs, c'est l'un des premiers recueils de hadith. C'est pas le premier, mais c'est l'un des premiers recueils de hadith dans lequel l'imam Malik donc, a rassemblé les hadiths du prophète sallam, également les athars des compagnons, et également ses propres avis aussi juridiques. L'imam Shafi'i, il s'est procuré donc cet exemplaire de le Muwatta, il l'a mémorisé avant de partir à Médine, et lorsqu'il arrive à Médine, donc il tombe sur le gardien de la mosquée, donc il lui dit, voilà, moi je suis venu pour apprendre auprès de l'imam Malik. Donc l'imam Malik, qu'est-ce qu'il va dire? Donc on lui donnera la formation, et il y a un jeune enfant qui est venu pour apprendre la science auprès de toi. Il lui a dit, envoyez-le vers un tel. Envoyez-le vers un prof classique, Yanné, auprès de qui il va commencer son apprentissage. Et là, l'imam Shafi'i, donc il sera accompagné de quelqu'un, il lui dira, cet enfant-là n'est pas un enfant ordinaire. Cet enfant-là, il a déjà mémorisé le Muwatta. Et là, on va appeler l'imam Malik, on va dire, cet enfant-là qui est en face de toi, il connaît déjà le Muwatta. Et là, l'imam Malik, il va dire, non, c'est pas possible. Ramenez-le-moi, cet enfant. Il va lui dire, récite. Et l'imam Malik, et l'imam Shafi'i, il va commencer à réciter. Il va réciter la première page. Il va lui dire, est-ce que je continue? Malik lui dit, continue. Deuxième page, continue. Troisième page, quatrième page, cinquième page, ainsi de suite. Et là, l'imam Malik, il va être impressionné par la mémorisation de l'imam Shafi'i. Et là, il lui dira donc la célèbre phrase, Inna Allah Azza wa Jal, qad alqa fi qalbika nouran, fala tutfi'hu bil ma'asiyah. Allah Jalla wa'ala a mis dans ton cœur une lumière. Ne l'éteins pas à cause des péchés. Donc cette histoire-là, subhanallah, elle montre quoi? Elle montre que l'imam Shafi'i, rahimahullah, non seulement donc il a appris le Muwatta déjà pour en profiter lui-même, mais aussi à travers ça, il montre la motivation qu'il a vis-à-vis de son professeur. Et donc à ce moment-là, quand l'imam Malik il l'a vu arriver, il l'a pris directement sous son aile. Parce qu'il sait qu'un étudiant comme ça, il n'en trouvera peut-être pas des masses. Et donc de la même manière, ici Zayd ibn Thabit, avant l'arrivée du prophète sallam, il prouve sa motivation en apprenant, en mémorisant 17 sourates avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, une autre mission de Zayd ibn Thabit, c'est l'écriture. Donc il a appris plusieurs langues, il a appris plusieurs sourates du Coran. La mission suivante à laquelle va s'attacher Zayd ibn Thabit, c'est l'apprentissage de l'écriture. Alors vous allez me dire, l'écriture, c'est quelque chose de naturel pour vous. À l'époque, c'était pas quelque chose de naturel. Les gens étaient très bons dans le langage, mais il se pouvait qu'on ne savait pas écrire. Et d'ailleurs, les gens de Médine, la plupart des gens de Médine n'étaient pas connus pour maîtriser l'écriture. Ceux qui étaient connus pour maîtriser l'écriture, c'était les gens de la Mecque. Les gens de Médine n'étaient pas connus pour cela. Et en l'an 2 de l'Hégire, vous savez qu'il y a un événement extraordinaire. Donc, Cheikh Nourdine est en train de traiter en ce moment, c'est la bataille de Badr. Et dans la bataille de Badr, donc la majorité de ceux qui font partie de la bataille de Badr, c'était des Mouhajiroun ou l'Ansar. Les gens de Médine ou les Mécoins. C'est les gens de la Mecque. Mouhajiroun qui ont fait, la majorité, c'est El-Mouhajiroun, les gens de la Mecque qui ont fait partie des combattants donc dans la bataille de Badr. Lorsque la bataille de Badr s'achève, donc elle s'achève sur une victoire éclatante des musulmans, et elle s'achève aussi sur une défaite extraordinaire, donc forcément des Mécois, dans laquelle 70 personnes, 70 Mécois, parmi eux les grands notables de la Mecque, ils trouveront leur tombeau, ils mourront dans cette bataille, et 70 personnes seront prisonniers. 70 seront prisonniers. Et là, le prophète sallallahu alayhi a une stratégie extraordinaire pour ces prisonniers. Pour être libérés, ces prisonniers doivent payer une rançon. Ils doivent payer une rançon. Et la rançon, donc, selon certains historiens, elle se situe entre 1000 à 4000 dirhams. Ceux qui n'avaient pas les moyens de payer cette rançon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exigeait que cette rançon-là se transforme en enseignement. Qu'est-ce qu'il devait enseigner? Il devait enseigner l'écriture. Il devait enseigner l'écriture à combien de personnes? a 10 enfants parmi les Ansar. Donc imaginez-vous, chacun des prisonniers qui n'a pas les moyens de payer cette rançon, eh bien il enseigne l'écriture à 10 enfants parmi les Ansar. Imaginez-vous à ce moment-là la situation de la ville de Médine. Elle vit dans la précarité, la pauvreté extrême. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, il accepte comme rançon, non pas une somme d'argent, mais un enseignement, un savoir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit loin. Il a envie d'éradiquer l'analphabétisme. Et c'est pas étonnant finalement d'une communauté dont le premier verset qui a été révélé, c'est « Iqra ». C'est pas étonnant. Non. Et donc un savant mauritanien, il a mis ça en forme de poésie. Donc il y en a cette histoire de rançon. Donc, c'est un savant qui a rassemblé toutes les guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les batailles et les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam en forme de poésie. Et dans l'un de ses vers, il dit, donc en parlant de la rançon, Al-Fida, « وَهُوَ بِقَدْرِ وُسْعِهِمْ وَالْمُمْلِقُ مِنْ خَطِّهِ عَشَرَةً يُحَذِّقُ » وَهُوَ, donc Al-Fida, la rançon, elle est de combien ? Chacun, il dit, donc chacun paye en fonction de ses moyens. Donc comme on a dit, entre 1000 à 4000 dirhams, la rançon. « وَالْمُمْلِقُ » il y en a le pauvre, eh bien lui, « مِنْ خَطِّهِ عَشَرَةً يُحَذِّقُ » il doit enseigner à 10 enfants, donc l'écriture, jusqu'à ce qu'ils maîtrisent donc l'écriture. Hatta yuhadhir, la maîtrise. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la maîtrise donc de l'écriture. Et Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, il figurera parmi ceux qui profiteront de cet enseignement-là. Il apprendra l'écriture à ce moment-là. À ce moment-là, Zayd ibn Thabit, il a quel âge ? Il a 12 ans, à peu près. Rappelez-vous, l'écriture n'est pas quelque chose de répandu dans la ville de Médine. C'est très rare, il n'y en a que les gens écrivaient. Et l'écriture, subhanallah, c'est un moyen important, il y en a pour le développement d'une nation et pour l'essor scientifique. Une communauté qui n'écrit pas, eh bien c'est une communauté donc scientifiquement qui est très faible. Et c'est pour ça qu'avant, dans certaines poésies, on disait, il y en a pour montrer l'importance de l'écriture, malheureusement qui se perd aujourd'hui, on disait « Al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduhu »« Al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduhu »« Qayyid suyudaka bihibalin wafiqah » La science, c'est comme, yani, c'est semblable à la chasse ou à la pêche. Et l'écriture, c'est quoi ? C'est la manière donc d'enchaîner la proie. T'as une proie, yani, quand t'es en train de chasser, t'as une proie. Tu l'enchaînes. Sahoulallah. Le kitaba, par rapport à la science, c'est le moyen d'enchaîner et de capturer donc les informations que tu récoltes dans ce savoir. العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة. Lorsque tu veux attraper un gibier, tu vas attraper une proie, et bien tu vas utiliser des cordes qui sont solides pour pas que la proie elle s'échappe. Mais de la même manière ici, l'écriture elle remplit ce rôle-là vis-à-vis de la science. Et malheureusement, donc aujourd'hui, encore une fois, l'écriture c'est quelque chose qui se perd. Aujourd'hui, on a des étudiants qui viennent en classe, que ce soit dans l'enseignement, donc des sciences profanes, pour ceux qui sont enseignants, ou dans l'enseignement religieux également. Les gens, ils viennent en classe, par exemple, on a des élèves qui viennent en classe sans affaires. Ni stylo, ni cahier, ni feuille, ni rien du tout. Toi, tu arrives en classe, c'est à toi de donner le matériel à l'élève pour qu'il écrive, tu lui donnes les feuilles, tu lui donnes le stylo, tu fais tout à sa place. Alors que les savants à l'époque, non, c'était pas comme ça. Al-ilmu saydun wal-kitabatu qaiduhu. Et malheureusement, c'est la même chose pour les sciences profanes. Et ici, celui qui va apprendre, sincèrement, eh bien, lorsqu'il arrive en classe, le minimum c'est déjà de commencer par amener ses affaires. Allah Jalla Ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans la sourate ? Iqra, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil-qalam. L'outil pour la science, c'est la plume, c'est l'encre, c'est le stylo, aujourd'hui. Non. Ibn Mubarak, rahimahullah, on lui a posé la question. Ibn Mubarak, rappelez-vous, hein, je vous avais cité son histoire la semaine dernière. Il disait, rahmatullah alayh, on lui a posé la question parce que lui c'était un transmetteur de hadith, donc il récoltait les hadiths, il les écrivait. Quelqu'un est venu lui faire la remarque. Il lui a dit, jusqu'à quand ? Et il l'a mis à. Jusqu'à quand tu vas écrire le hadith ? C'est ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit, la'alla al-hadith alladhi adkhulu bihi al-jannah lam aktubhu ba'd. Peut-être que le hadith avec lequel j'entrerai au paradis, ben, il se peut que je ne l'ai peut-être même pas encore écrit. En gros, l'écriture, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Non. Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, rahimahullah, dans une très belle parole, il disait, اجعل ما في كتبك رأس مالك وما في صدرك للنفقة. Donc toi tu as une somme d'argent. Imagine-toi, tu as, je sais pas, tu as 5000 euros. Ton capital, c'est 5000 euros. Quand tu sors dehors, tu ne prends pas tes 5000 euros avec toi. Sauf celui qui est fou. Ça, voilà. Tu as 5000 euros, tu ne sors pas avec 5000 euros à l'extérieur. Ton capital, c'est ça. Tu prends simplement de quoi dépenser. Khalil ibn Ahmed, il te dit Ij'al ma fi kutubika ra'sa malik. Fais de ce qu'il y a dans tes, de ce que tu as écrit, hein, dans tes cahiers, dans tes ouvrages. Fais-en et année ton capital. Et ce qu'il y a dans ta poitrine, bien ce que tu dépenses. Autrement dit, ce que tu dois écrire et année comme enseignement et comme fawaïd dans tes cahiers, bien ça doit être beaucoup plus important que ce que tu dépenses, c'est-à-dire ce que tu as à l'intérieur de toi dans ta poitrine. Rahmatullah alayh. Zayd ibn Thabit, à la suite de ça, il sera missionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour quelque chose de nouveau. Il aura une nouvelle mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Zayd ibn Thabit, il connaît plusieurs langues, il connaît plusieurs sourates du Coran, il a appris l'écriture, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui donner une nouvelle mission. C'est quoi cette nouvelle mission? Il va devenir le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va écrire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire premièrement la révélation, le Coran, et deuxièmement, toutes les correspondances entre l'État musulman et tous les autres états aux alentours. Toutes les correspondances, donc les lettres qui sont envoyées. On sait que le prophète sallam, à un moment de sa vie, il a envoyé énormément de lettres et années aux rois avoisinants, Al-Muqawqis, Hirakl, etc. Il leur a tous envoyé à Kisra également, il a envoyé des lettres. Parmi les scribes du prophète sallam, il y avait Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu. Donc il est devenu officiellement le scribe du prophète sallam. Alors c'était pas le seul, et c'était pas le premier. Parmi les scribes du prophète sallam, alors l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah, il en cite une vingtaine. Il cite à peu près une vingtaine de scribes du prophète sallam. L'imam al-Iraq rahimahullah, il en a cité plus de 40. Exactement 42 scribes du prophète sallam. Parmi eux, alors je cite simplement à titre d'exemple, hein, parmi eux, donc Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Khalid ibn al-Walid, Zayd ibn Thabit, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Rawaha, Al-Mughira ibn Shu'ba, tout cela était des scribes du prophète sallam. Alors certains étaient spécialisés pour la révélation, d'autres écrivaient donc toute forme de choses pour le prophète sallam. Mais celui qui avait une place importante auprès du prophète sallam, c'était qui? C'était Zayd ibn Thabit. Et ça pour deux raisons. Les savants nous expliquent cela pour deux raisons. Premièrement, le fait que Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, il connaît déjà plusieurs langues. Donc forcément il est plus polyvalent que les autres qui ne connaissent qu'une seule langue. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, le fait que Zayd ibn Thabit radiallahu anhu était jeune. S'il est jeune, ça signifie quoi? Ça signifie que derrière il a plus de temps libre. Il a encore l'esprit libre. Il n'a pas de responsabilité à sa charge, contrairement aux autres compagnons qui étaient beaucoup plus âgés que lui et qui avaient donc des familles, un métier, un travail, etc. Zayd ibn Thabit, il était jeune à ce moment-là. Donc le prophète sallam l'a utilisé, lui, en priorité, pour la mission donc en question. Et d'ailleurs, Zayd, radiallahu anhu, lui-même, il disait « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha nazala alayhi al-wahyu, ba'atha ilayya fakatabtuhu. » Lorsque le prophète sallam recevait la révélation, il l'appelait après moi. Il demande après moi. Donc il envoyait quelqu'un pour appeler Zayd, radiallahu anhu. Ensuite Zayd venait et il écrivait donc la révélation que le prophète sallam lui disait. Alors comment l'écriture de la révélation se faisait? Ça c'est un point très très important. Comment l'écriture de la révélation se faisait? Alors on va laisser Zayd ibn Thabit nous expliquer ça. Comment il écrivait la révélation pour le prophète sallam? Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, il dit كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت écoutez bien فإذا فرغت قال اقرأه فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس رضي الله عنه. Il disait, Zayd ibn Thabit, j'écrivais la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que j'ai terminé donc d'écrire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demandait de relire ce que j'avais écrit. Il demandait de relire. Et je relisais. Et s'il y avait un manque, une erreur, un oubli, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam le corrigeait. Il disait, écoute ici, tu as oublié tel mot, écris tel mot. Et ensuite, dès qu'il avait fini ça, Zayd ibn Thabit dit, et ensuite je sortais avec auprès des gens. Et ce que j'avais écrit, je sortais avec cela, donc auprès des gens. Autrement dit, il dispersait et transmettait donc les versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, qu'est-ce qu'on remarque dans ce hadith, ou dans ce athar, dans ce texte? On remarque ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a employé deux méthodes parmi les méthodes de transmission, ce qu'on appelle al-riwaya. Dans la transmission, notamment ça s'est très développé dans la science du hadith, mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise deux moyens de transmission. Le premier, c'est al-shaykhu yaqra wa tilmidhu yasma. Et le deuxième, c'est l'inverse. Al-tilmidhu yaqra wa shaykhu yasma. Et ces deux méthodes différentes dans la transmission, elles ont un poids différent aussi dans la transmission. La première, c'est le shaykh qui lit, qui dit, et l'élève qui répète. Donc l'élève qui écoute et le shaykh qui parle. La deuxième, c'est le shaykh qui écoute et l'élève qui lit. La première, elle s'appelle comment? At-talaqi. At-talaqi, c'est-à-dire la réception, la phase de réception. La deuxième phase, c'est la phase de restitution. Tu restitues ce que tu as entendu. At-talaqi ou al-ard. L'ard, c'est le fait d'exposer. Tu restitues ce que tu as appris. Le prophète sallam, il lisait les versets. Zayd ibn Thabit les écoutait. Il les écrivait. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est at-tilmidhu yaqra wa shaykhu yasma. Là, c'est Zayd ibn Thabit qui lit et le prophète sallam qui écoute. Voilà les deux moyens, subhanallah, extraordinaires que le prophète sallam a mis en place pour préserver donc le Coran sallallahu alayhi wa sallam. Et cette méthode-là, subhanallah, elle sera employée par la suite. Elle sera employée dans quoi? Parce que vous savez que l'imprimerie, elle n'était pas encore développée dans la première génération de l'islam. Donc quelqu'un, lorsqu'il y avait un savant qui avait écrit un livre, un recueil de hadith par exemple, et que quelqu'un voulait ce recueil-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ce qu'on appelle le nasr. Il prenait le livre d'origine, d'accord? Et lui, donc, avait son cahier, ses feuilles, et retranscrivait intégralement ce qui était écrit dans le livre d'origine. D'accord? C'est ce qu'on appelle le nasr. Al-nasr. Donc il fait simplement que retranscrire ce qu'il y a dans le livre. Mais le problème, c'est que si on ne fait pas ce qu'on appelle al-muqabala, tu ne fais pas la comparaison entre ce que tu as écrit et le livre d'origine, il risque d'y avoir des erreurs. Ce qu'on appelle al-muqabala. Tu compares ce que tu as écrit par rapport au livre d'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle al-muqabala. Et si tu ne faisais pas ce travail-là, il se peut que tu oublies un mot. D'accord? Tu peux oublier un mot. Le fait d'oublier un mot, ça peut transformer le sens de la phrase. Ça peut donner le sens inverse, ou ça peut donner une phrase qui n'a plus de sens. D'où l'importance, c'est de faire ce travail-là. Et les savants, subhanallah, les spécialistes du hadith, ils ont un chapitre sur ce domaine-là, et ils avaient, subhanallah, une règle extraordinaire. Ils disaient « Man kataba wa lam yuqabil fal yurma fil mazabil » Celui qui est venu, qui a écrit, mais qui n'a pas fait ce travail-là de comparaison, eh bien son travail, tu peux le prendre et tu peux le balancer à la poubelle. Il ne vaut rien. Parce qu'il se peut que tu as oublié certains mots dans ce que tu as écrit. Man kataba wa lam yuqabil fal yurmi fil mazabil. Ici, c'est une exagération. Ce n'est pas dire que tu vas prendre la parole d'Allah Azza wa Jal ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu vas l'acheter à la poubelle. Ce n'est pas ça le sens. Mais c'est pour montrer le degré, le fait que ce travail-là ne vaut rien du tout en réalité. Non. Également, ensuite, Zayd ibn Thabit, après être devenu donc le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera aussi traducteur, un traducteur officiel, traducteur d'État. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le choisira pour traduire tout ce qui vient de l'extérieur ou tout ce qui est envoyé donc à l'extérieur, tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il envoie. Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, de par le fait qu'il a appris plusieurs langues, donc on avait cité la fois dernière l'hébreu et le syriaque. Alors ici je veux rajouter d'autres informations, parce que certains historiens nous citent également que Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, il avait également mémorisé donc l'éthiopien, le habashiya, et également le copte, al-qibtiya. D'ailleurs le prophète sallam, il s'est entretenu, donc il a eu une correspondance donc avec le roi des Coptes, Al-Muqawqis, en Égypte. Et subhanallah, le traducteur, il occupe une place très importante au sein de l'État. Aujourd'hui, il y a une langue internationale. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc le traducteur, il occupait une place très importante au sein d'un État. Il avait accès aux secrets d'État. Il avait accès aux correspondances entre son État et les États voisins. Et le prophète sallam, il avait pleinement conscience de cela. Et donc le fait qu'il choisisse Zayd ibn Thabit pour cette mission-là, on dit long et année sur la confiance que le prophète sallam accordait à Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. La participation de Zayd ibn Thabit aux batailles. Donc là, dans la Sunna Nabawiyya, vous êtes arrivé donc à la bataille de Uhud, à la bataille de Badr, afwan. Zayd ibn Thabit, à ce moment-là, il était encore trop jeune. Il a voulu participer à la bataille de Badr, mais le prophète sallam il l'a recalé. Il ne l'a pas accepté pour la bataille de Badr, à cause de son jeune âge. Également la même chose pour la bataille de Uhud. La première bataille à laquelle Zayd ibn Thabit va participer, c'est la bataille de l'Ahzab, la bataille des coalisés. La bataille des coalisés ou la bataille du fossé. Vous savez que la bataille des coalisés, Ahzab, c'était la bataille dans laquelle le prophète sallam a affronté. Affronté qui? Naam? Quraysh, naam, de manière. Donc les Mécois de Quraysh, mais également donc la tribu des Banu Ghatafan. Ils se sont alliés entre eux, également avec les Juifs de Médine. Ils se sont alliés ensemble pour attaquer le prophète sallam. Donc ils ont formé une armée de 10 000 hommes. 10 000 hommes, et ils se sont tous dirigés vers la ville de Médine. Et là, le prophète sallam, il s'est concerté avec les compagnons. Et un compagnon illustre, qui s'appelle Salman al-Farisi, il va proposer au prophète sallam de creuser des tranchées. Et c'est ce que le prophète sallam va faire. Et Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, il fera partie de ceux qui creuseront avec l'ensemble des musulmans. En sachant que c'était une période de froid, une période de faim. Il vivait vraiment c'était vraiment une période très difficile. Tout ça, c'est relaté dans la sourate al-Ahzab, avec des détails extraordinaires pour ceux qui veulent donc en connaître un peu plus. Et Zayd ibn Thabit radiallahu anhu sera en train de creuser, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le verra en train de creuser. Imaginez-vous un jeune de quinzaine d'années en train de creuser des tranchées donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il le verra, il dira Ama innahu ni'mal ghulam. Ama innahu ni'mal ghulam. Comme c'est rapporté par l'imam Mizi rahimahullah. Ama innahu ni'mal ghulam. Cet enfant-là, quel merveilleux enfant, quel bon enfant, Zayd, radiallahu anhu. Ensuite, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, il participera à la bataille de Tabouk. Donc, cette bataille-là qui se passera donc à la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette bataille-là, la bataille de Tabouk, donc chaque tribu avait un drapeau, portait son drapeau. Et les Banu Najjar, donc les Banu Malik ibn Najjar, donc la tribu de Zayd, ils portaient aussi donc un drapeau. Et qu'est-ce qui portait le drapeau à ce moment-là? C'était Umar ibn Hazm, le beau-père de Zayd. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le rattraper. Il va lui retirer le drapeau. Et il va le donner à Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Et là, Umar ibn Hazm, il va ressentir un petit pincement dans son cœur. Et il va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, Rasulallah, abalaraka anni shay. Est-ce qu'il t'est parvenu quelque chose sur moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'on t'a dit que j'ai fait quelque chose pour que tu m'enlèves le drapeau que tu le donnes à Zayd ibn Thabit? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, walakin al-Qur'an yuqaddam. Walakin al-Qur'an yuqaddam. Non, rien ne m'est parvenu de toi, mais simplement le Qur'an doit être mis en avant. Wa kana Zaydun akthara Qur'anan mink. Et Zayd a plus de Qur'an que toi. Donc c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné donc le drapeau à lui. Également, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il participera à deux batailles importantes. Deux batailles très importantes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est la bataille de Al-Yamama, qui se produira donc durant le califat de Abu Bakr radiallahu anhu. Cette bataille-là donc qui est propulsée, donc c'est un mouvement d'apostasie propulsée par Musaylima Al-Kadhab, Musaylima le menteur, et qui se terminera donc celui qui a prétendu être un prophète. Vous avez entendu, donc Cheikh nous avait expliqué la semaine dernière, il avait prétendu être prophète et recevoir une révélation, et on a entendu donc la semaine dernière quelques surat du Coran de Musaylima al-Kadhab. Cette bataille-là, donc Zayd ibn Thabit, il y participera à la bataille de l'Yamama. Et rappelez-vous de ce qu'on avait dit la fois dernière, son frère, le frère germain de Zayd, qui s'appelait quasiment la même chose que Zayd, il s'appelait Yazid. Yazid, son frère, perdra la vie donc dans cette bataille. Il tombera martyr dans la bataille de l'Yamama. Et également Umarat ibn Hazm, son beau-père, perdra la vie donc dans la bataille de l'Yamama. Zayd ibn Thabit participera à cette bataille-là. Il sera touché par une flèche, mais alhamdoulilah, il en sortira indemne. Et il participera également à une autre bataille, qui est la bataille de Yarmouk, qui se produira, donc selon les historiens, donc on a deux avis chez les historiens, l'imam Tabari, rahimahullah, il penche pour l'avis que cette bataille-là s'est produite l'an 13 de l'Hégire, c'est-à-dire durant le califat de Abu Bakr, et d'autres historiens comme le Waqidi et d'autres considèrent que cette bataille-là s'est produite l'an 15 de l'Hégire, c'est-à-dire durant le califat de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. En toute situation, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a fait partie de cette bataille-là. Cette bataille-là, c'était entre les musulmans et l'Empire romain, Nam. Et cette bataille-là, elle s'est terminée par une victoire écrasante des musulmans, malgré que les musulmans, ils étaient en infériorité numérique. Ils étaient en infériorité numérique. Et qu'est-ce qui était à la tête de l'armée musulmane ? Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Ce grand chef des armées qui a mené donc les musulmans dans cette bataille-là et les a fait triompher, radiyallahu anhu, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, évidemment. Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, à l'issue de cette bataille-là, de la bataille de Yarmouk, donc vous savez qu'à l'issue d'une bataille, il y a le partage du butin, et celui qui se chargera du partage du butin dans cette bataille-là, c'est Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Malheureusement, le temps ne nous permettra pas d'aller plus loin. Donc, ce que je voulais citer encore aujourd'hui, c'était les particularités de Zayd, radiallahu anhu. On les citera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et on citera également la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce sera la dernière partie sur ce compagnon, radiallahu anhu. On citera la relation entre Zayd ibn Thabit et le Coran. Et ce que Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, a apporté donc, au niveau du Coran. On s'attardera sur ça donc à la prochaine intervention. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.